annulé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne fin de journée à vous.
Rencontre, acteur, initiative locale, culture, mémoire, patrimoine. Tout ce qui fait l'actualité est dans votre magazine sur Radio Plus.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mardi Magazine préparé par la rédaction de Radio Plus. Aujourd'hui, on s'intéresse à la presse écrite qui, elle aussi, fait face au confinement. Comment informer du monde qui nous entoure lorsque l'on est habitué à raconter aussi les événements festifs et à être très actif sur le territoire? Comment faire face à une crise économique prévisible lorsque les annonceurs ne font plus, pour le moment, appel à vous? Comment informer sans se mettre en danger sur le plan sanitaire? Voilà quelques-unes des questions qui se posent pour les journalistes de presse écrite. Nous avons voulu vous éclairer sur le sujet, savoir comment fonctionnent les journaux que vous lisez, au travers de deux exemples en période de confinement. Le premier est celui du groupe Nord Littoral, qui regroupe 9 hebdomadaires, parmi lesquels des titres que vous connaissez, comme l'Écho de la Lys, l'Avenir de l'Artois, ou encore l'Indicateur des Flandres. Frédéric Petronio est le rédacteur en chef de ces trois journaux. Il a répondu à mes questions pour parler de l'adaptabilité du groupe Nord Littoral face à cette situation. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez un sujet réalisé par nos confrères de Radio PFM à Arras, qui ont interviewé Fabien Bideau, qui est journaliste à La Voix du Nord, rédaction d'Arras. Mais tout de suite, place à l'interview de Frédéric Petronio.
Radio Plus, interview.
Frédéric Petronio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de l'Avenir d'Artois, mais aussi de l'Écho de la Lys et de l'Indicateur des Flandres, qui appartiennent au groupe Nord Littoral, dont vous êtes membre du comité de direction, et vous êtes avec nous pour parler justement de la réorganisation de vos journaux, de la réorganisation aussi de la manière de faire de l'info locale face à cette épidémie de coronavirus. Alors tout d'abord, première question, comment vous êtes-vous justement adapté face à l'épidémie pour continuer à faire votre travail le mieux possible?
Plusieurs choses. La première, c'est que nous faisons partie des professions qui sont considérées comme faisant partie des secteurs de première nécessité, ce qui signifie que dans la liste des professions données par le ministère de l'Intérieur comme pouvant continuer à exercer, eh bien, il y a les journalistes, ce qui signifie que pour nous, rien ne s'arrête. On continue à aller en reportage quand les gens veulent bien nous rencontrer en direct. Ça, c'est un aspect des choses. Autre aspect, il a quand même fallu qu'on prenne eh bien des mesures de bon sens pour tous rester en bonne santé, ce qui signifie que nos rédactions sont aujourd'hui vides de tout journaliste. Nous sommes un ou deux à y passer plusieurs fois par semaine, mais jamais en même temps. Et donc, nous sommes tous en relation permanente, mais en étant chacun chez nous. Donc, pour résumer, d'un côté, on continue à faire de l'info comme avant et d'aller sur le terrain toutes les fois où cela est possible. Mais en revanche, la rédaction, eh bien, les gens ne sont plus les uns à côté des autres, mais la rédaction est devenue quelque part virtuelle.
Alors, la rédaction, justement, parlons-en sur les trois hebdomadaires dont vous êtes rédacteur en chef. Ça représente combien de journalistes?
Alors, tout ça représente une vingtaine de personnes.
Autre donnée aussi, et c'est aussi une des particularités de la presse locale, c'est le recours aux correspondants locaux de presse. Est-ce que dans ces 20 personnes, on ne parle que des journalistes ou on inclut aussi les correspondants locaux de presse? Et quelle est leur situation à l'heure actuelle?
Alors, je parle bien uniquement des salariés de l'entreprise du groupe Nord Littoral, donc que des journalistes. Concernant les correspondants locaux de presse, ben là, c'est très simple. Ce ne sont pas des salariés, ce sont très souvent des gens qui ont une vraie profession à côté, une activité autre que celle d'être justement correspondants pour des journaux. Alors eux, ce sont typiquement des gens qui, en règle générale, nous proposent des sujets ou à qui on propose de faire certains sujets, et puis c'est à eux de nous dire oui je peux, non je peux pas, oui j'ai envie, non je ne veux pas traiter ce sujet. Donc ça c'est le cadre général. Sur le cadre plus précis qui concerne la période que nous traversons, bien là on a géré deux types de personnes, des gens qui ont besoin, je dirais, de d'être au contact des interlocuteurs et qui n'arrivent pas à voir comment travailler à distance, et qui donc nous ont dit bah écoutez, pendant la période du confinement, nous on se retire. Et puis il y en a d'autres qui nous disent non, ben il n'y a pas de souci, on continue à travailler, à vous proposer des sujets. Et là, les gens travaillent par téléphone.
Vous nous disiez, Frédéric Pedrogno, que les reportages se faisaient encore sur le terrain. Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Lorsque les gens veulent bien nous rencontrer, est-ce qu'il y a beaucoup de refus ?
Ben écoutez, il y a eu un phénomène assez intéressant à observer dès les premières heures du confinement, c'est que dans les différentes rédactions, les différentes éditions de l'Avenir de l'Artois par exemple, mais ça a été vrai sur l'Écho de la Lys et sur l'Indicateur des Flandres, nous avons des interlocuteurs avec qui nous avions rendez-vous au fil de la semaine, qui nous ont appelé vraiment dans les heures qui ont suivi l'annonce du confinement, et qui nous ont dit bah voilà, on annule le rendez-vous. Alors pour certains, ça devenait un vrai problème, c'est-à-dire que faire le sujet sans les voir ou sans être dans un environnement particulier en dehors duquel est très compliqué de faire notamment de l'image. Bah, avec cela, on a remis, je dirais, le rendez-vous au calendrier grec. Et puis pour d'autres, eh ben, on s'est recalé. Et là, c'est devenu de la relation téléphonique ou via des réseaux de communication qui permettent de se voir en face à face à travers les téléphones ou les ordinateurs.
Est-ce que les journalistes sont soumis à des dispositions particulières lorsqu'ils partent en reportage ? Est-ce qu'ils sont équipés masques, gants, protections spécifiques lorsqu'un reportage sur le terrain a lieu ?
Alors là-dessus, la première des dispositions particulières, c'est le bon sens, et c'est les dispositions que nous connaissons tous. Moi, je n'ai de cesse de répéter deux choses. Un, l'info doit continuer, donc effectivement, toutes les fois où on doit être quelque part, on y va. En revanche, la deuxième chose qui va de pair, c'est on fait attention à sa sécurité. Donc on reste à distance, on double les distances s'il faut avec nos interlocuteurs. Enfin, on ne se met pas inutilement en danger, et on ne se met pas en danger tout court. Sur l'aspect de l'équipement, je dirais que là, on a été un petit peu comme tout le monde pris de court. Alors dans certaines rédactions, on a réussi à récupérer à droite à gauche des masques, des gants. On est allé regarder, je dirais, dans nos maisons ce qui traînait. On est allé regarder chez des, enfin autour de nous, chez des particuliers. On a demandé aux pharmaciens. Enfin voilà, on a cherché partout comme tout le monde pour s'équiper. Et puis au niveau du groupe, du grand groupe auquel nous appartenons, qui est le groupe Rossel, et bien là une commande de masques notamment a été passée pour l'ensemble des titres, donc ça va bien au-delà de la sphère nord-littorale.
Alors on parle justement de l'aspect groupe, vous dépendez effectivement du groupe Nord-Littoral, et il a été décidé justement un rapprochement entre les différents titres, hein, si j'ai bien suivi votre actualité. On retrouve des éléments communs aux différents titres pour faire un seul et même journal en fait, c'est ça, expliquez-nous.
Alors on s'est retrouvé confronté à quelque chose de très basique et qui va parler à tout le monde. Les journaux sont avant tout des entreprises. Une entreprise ne peut pas vivre à perte, ne peut pas travailler à perte, sinon elle meurt. Donc on a plusieurs sources de revenus qui sont effectivement la vente du journal en kiosque ou aux abonnés. Autre source de revenus, la publicité. Et puis il y a aussi le digital chez nous, et puis il y a tous nos produits qu'on appelle de diversification, comme par exemple le hors-série autour de la Pologne que nous avons sorti en début d'année, comme un hors-série autour du RC Lens que nous sortons tous les ans. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le cadre général de nos sources de revenus. Du jour au lendemain, et là encore en quelques heures, on s'est retrouvé face à des choses que toutes les régies publicitaires notamment ont connues, que ça soit dans la presse écrite, que ça soit à la radio notamment, on s'est retrouvé avec des campagnes décommandées. Tout ça n'est pas neutre. De la même manière, le confinement a eu un impact assez direct sur la fréquentation des marchands de journaux. Donc, à partir de là, on se retrouve avec des journaux à produire parce qu'on a ce devoir d'information, parce que c'est notre raison d'être, mais on doit aussi anticiper un avenir assez immédiat et là qui concerne le niveau de nos revenus, de nos recettes. Face à ça, il a été décidé de repenser nos journaux et donc nous avons l'ensemble de nos hebdomadaires, nous les avons repensés, regroupés, et on se retrouve aujourd'hui avec trois journaux dès ce matin au kiosque, avec trois types de journaux, un journal qu'on va appeler Journal des Terres qui regroupe l'Écho de la Lys et toutes les éditions de l'Avenir de l'Artois, un autre qu'on va appeler dans notre jargon interne le Journal du Nord, qui va regrouper l'Indicateur des Flandres, le Phare d'Interquois, mais aussi le Journal des Flandres. Et puis au sud, là, vers la côte, on a regroupé l'ensemble de nos titres aussi. Tout ça donne quoi? Eh bien, tout ça donne des journaux extrêmement riches. Et il y a un point d'attention à avoir là-dessus, c'est que ces journaux ne sont pas la simple juxtaposition de titres les uns avec les autres. On s'est vraiment attaché dans toutes les équipes réunies à penser les journaux de telle manière à ce que le lecteur puisse se balader du début jusqu'à la sortie du journal en ne croisant pas deux fois le même type de sujet. Enfin, vraiment, il y a un travail de cohérence éditoriale qui a été mené. Et je dois avouer que à la sortie des premiers journaux, le résultat est plutôt au rendez-vous.
Est-ce que ça a été justement un travail plutôt facile à faire?
Alors, on a la bonne surprise de sortir de tout ça en se disant mais finalement, on est rentré là-dedans comme dans du beurre. Mais c'est quand même en amont un travail de gros travail de coordination, d'échange permanent entre les équipes. Ça a été rendu facile parce que on a une culture interne au sein du groupe Nord Littoral qui fait que les rédacteurs en chef de tous les titres sont au moins une fois par semaine en train de se parler tous ensemble et de se raconter un petit peu ce que leurs journaux vont contenir. Donc on a une habitude d'échange on est aussi en lien de manière un petit peu moins formel, plusieurs fois dans la semaine, les uns avec les autres. Donc on a vraiment une culture de l'échange et de la synergie. Et ça, je crois que ça a joué énormément. Et ce qui nous a aidé aussi, c'est que cette culture de la synergie, elle vient aussi de toute l'organisation autour du digital qui maintenant est instaurée dans ce groupe depuis 4-5 ans.
Radio Plus, ma station, ma région, ma passion. Radio Plus.
Frédéric Pétronio, rédacteur en chef de L'Avenir de l'Artois, de l'Écho de la Lys et de l'Indicateur des Flandres, est toujours avec nous pour parler cette fois-ci de la réorganisation du travail dans ces conditions un peu particulières. Alors on va parler justement des organisations dans le travail, notamment les conférences de rédaction essentielles à la vie d'un journal. J'imagine qu'elles se font en télétravail forcément, mais est-ce qu'il y a des routines qui se sont en tout cas installées ou au contraire est-ce qu'il y a des choses qui ont dû se transformer et qui changent de semaine en semaine ?
Alors là, très clairement, alors oui, ce sont des points de rendez-vous en télétravail. On a fait deux choses. On a commencé par instaurer très rapidement des routines, comme vous dites, des points de rendez-vous, des moments de rendez-vous dans la journée. Ça c'est une première chose. Et puis on a donc là-dessus on s'est calqué finalement sur ce qu'on faisait déjà. On a gardé pour certaines choses les mêmes horaires, juste on n'est plus ensemble. Et puis on a aussi injecté de nouveaux points de rendez-vous au cours d'une journée. Je pense notamment à un rendez-vous autour du digital qui est devenu maintenant notre premier rendez-vous de la journée en réalité, qui n'existait pas en tant que tel. On avait un autre mode d'organisation. Et puis ce sont donc deux aspects. Et puis troisième aspect, nous nous sommes créés, mais comme dans beaucoup d'entreprises, je pense, des fils de discussion permanents et instantanés à travers des outils de messagerie là interne au groupe, qui font que je dirais qu'on ne se quitte quasiment plus jamais. Voilà.
Le lien, effectivement, est établi en continu. Alors, on parle du digital, justement, Frédéric Pétronio. On le disait tout à l'heure, forcément, le confinement, les restrictions de déplacement font que le lecteur ne va peut-être plus aussi souvent qu'avant chez son marchand de journaux. Est-ce que vous constatez, dans un premier temps, un boom de fréquentation sur le digital, donc sur les sites de vos éditions respectives, et dans un second temps, est-ce que vous avez vous-même aussi changé peut-être certaines politiques liées à la gratuité ou non des articles?
Alors, oui et oui. Bon. Alors, on a très sensiblement ça dès le premier jour de confinement. On a vécu je dirais 8-10 jours de pic de fréquentation sur le digital, assez inédit. Il en est resté des traces et des bonnes, puisque on a des gens qui n'étaient pas des abonnés digitaux et qui, à force de nous suivre, je dirais tout au long de la journée, parce que nous avons vraiment établi un flux continu d'infos toutes les fois où il était urgent et incontournable de le faire. Donc là, on a levé, je dirais, on a rehaussé le niveau d'intensité de publication. Donc ça, là-dessus, ça a des effets positifs. Visiblement, pour ce qu'on peut comprendre en termes de fidélisation sur le digital. Quant à la politique tarifaire sur le web, nous avons introduit des choses là encore qui n'étaient pas forcément dans notre culture. Nous sommes des sites qui aujourd'hui sont payants pour les mêmes raisons que j'exposais tout à l'heure. Nous sommes des entreprises. Personne n'imaginerait entrer chez un marchand de journaux et repartir avec le journal sans le payer. Sur le digital, c'est pareil. Mais là, avec la situation, encore une fois, assez inédite que nous sommes en train de vivre, et avec le besoin d'infoservices, d'infopratiques ou d'infos tout court sur que se passe-t-il avec cette épidémie autour de moi, nous avons décidé, sur un certain nombre de papiers, de les publier en accès gratuit, quelle que soit leur taille, toutes les fois où nous avons considéré que toute personne cherchant des réponses très très immédiates autour de l'épidémie de coronavirus, eh bien, nous nous devions de donner cette information. Donc, nous n'avons pas changé notre politique tarifaire, nous n'avons pas édité de choses particulières autour de ça. En revanche, nous avons ouvert en gratuit des choses qui, d'habitude, ne l'auraient pas été.
On parle justement de l'économie au sens large qui est perturbée hein, dans notre pays. De manière plus spécifique, la presse connaît aussi des perturbations, quel que soit le type de support d'ailleurs, mais notamment avec une crise chez les annonceurs qui ne prennent plus notamment de support pour le moment. Est-ce que de manière générale, vous avez des craintes pour l'économie du journal ?
Alors aujourd'hui, nous avons tout mis en œuvre au niveau groupe pour passer la vague. Vous venez de le dire, hein, comme tout le monde, nous sommes face à des positions d'attente, de retrait de la part des annonceurs qui nous pénalisent. Je vais dire qu'on reste serein sur la suite parce que nous avons mis en place un certain nombre de mesures, parce que nous continuons à préparer des produits de diversification, je dirais, comme d'habitude. On ne peut pas présumer, je dirais, de ce qui se passera après le 11 mai. Est-ce que le déconfinement sera réellement levé ou pas? Aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour se prononcer sur ce genre de questions.
On termine cet entretien avec une notion essentielle, celle de la proximité. C'est ce qui fait l'ADN de vos titres. Alors, est-ce que tout d'abord, il n'est pas trop frustrant de ne pas pouvoir être aussi souvent sur le terrain que en situation que l'on qualifiera de normale? Et est-ce que également ça a aussi une espèce de, alors on va dire, frustration à ne plus pouvoir raconter la vie d'avant?
Il n'y a pas de frustration dans la mesure où on raconte la vie. Voilà, notre ADN c'est ça, c'est que se passe-t-il que se passe-t-il à l'instant T, que peut-on entrevoir de la suite. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de frustration, il y a encore autour de nous, heureusement, des êtres humains, et c'est d'eux dont nous parlons. Là où effectivement vous avez raison, il y a un élément de frustration assez fort, mais parce que c'est notre raison d'être aussi, c'est effectivement de ne plus pouvoir voir systématiquement les gens et d'énormément travailler à distance. Là, il nous manque incontestablement quelque chose par rapport à notre ADN.
Et vos lecteurs, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Quels sont les retours qu'ils vous font par rapport au traitement de l'information, par rapport à l'accompagnement que vous faites au travers des pages du journal, mais aussi au quotidien sur le digital?
Alors, on a des gens qui nous disent bravo, merci, continuez, mais je dirais qu'on n'est pas les bravo, merci, c'est aujourd'hui, c'est surtout aux soignants qu'il faut les adresser. Mais pour rester sur votre question, je dirais nous sommes face à des lecteurs et à des fidèles qui comprennent tout à fait la situation et qui finalement nous confirment que la mission semble à peu près bien remplie en continuant à nous acheter. D'ailleurs, si je peux me permettre de lancer un message, continuez d'écouter la radio, continuez d'aller chercher de l'info vérifiée, recoupée et bien mise en forme sur le digital ou chez les marchands de journaux, parce que les marchands de journaux, eux aussi, souffrent pas mal. Et autant je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant pour dire de quelle manière nous allons être impactés à la sortie, et on essaie de l'être le moins possible. Mais ce qui est certain, c'est que toute la sphère des commerçants, qui sont aussi nos partenaires, eux souffrent très très directement. Les marchands de journaux, même s'ils font partie des magasins qui peuvent encore rester ouverts, les choses sont pas simples pour eux non plus.
Alors, ma toute dernière question sera peut-être un peu plus personnelle. Frédéric Pétronio, vous êtes rédacteur en chef de 3 hebdomadaires sur 3 territoires différents qui ont chacun leur spécificité. On imagine que au fin fond des Flandres, on a peut-être une perception différente de l'épidémie qu'en plein centre-ville de Lens ou de Béthune. Alors ma question sera la suivante: en tant que rédacteur en chef et donc chargé en quelque sorte aussi d'un travail de coordination au sein des différents reportages proposés par vos journalistes, quel que soit le titre d'ailleurs, qu'est-ce que vous retirerez de cette crise, même s'il est peut-être un petit peu tôt pour en faire le bilan, et surtout, est-ce qu'elle va changer votre manière de travailler?
Ce que je retiendrai de cette crise, c'est la formidable capacité de l'être humain à ne pas se résigner, à continuer à tenter d'aller de l'avant, dans des moments pas si simples. Ça c'est un petit peu la généralité, je dirais. Ensuite, sur les manières de travailler, incontestablement ça va nous marquer assez profondément. Il y a des habitudes que nous sommes en train de nous créer. On pourra s'interroger à la sortie du confinement sur des choses qu'on a. Des petites choses que nous avons inventées dans le fonctionnement au quotidien, des choses qu'on regardera peut-être. Aujourd'hui, on est sur une certaine forme de flou autour de tout ça. On a appris à se réadapter, mais forcément, on a une expérience qui est en train de se faire et dont on tirera deux choses, je dirais. C'est notre capacité, on l'espère, à surmonter la crise là sur le plan économique, mais on en tirera, deuxième chose, des enseignements pour notre façon de faire à l'avenir, d'autant plus que rien ne dit que ce que nous vivons aujourd'hui ne soit pas amené à se répéter. Donc on doit se dire que nous sommes peut-être bien entrés dans un nouveau monde. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu, mais là pour le coup c'est extrêmement concret. Que les process qu'on met aujourd'hui en place pour faire face à la difficulté, eh bien il faudra les affiner et s'en servir pour anticiper d'autres crises.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Un chômeur en déroute, le fils de la pharmacienne, un bassiste de Toulouse, un batteur look et Harlem, un mélange de jazz and blues, version new wave africaine. Il a vendu sa mob et le cuir de son blouson, sacrifié à la mode, une musique sans concession. Depuis le temps qu'il rame sur le sable au fond d'une cave, je peux vous dire, messieurs, dames, qu'à ces jours ça va faire grave. Jimmy D, what I say, I love you baby,
pas dans les balles du samedi. Des rock'n'roll bananes, des reggae jalousie. Voyage en minibus, hôtel de troisième zone. Il a tout et même plus pour finir Rolling Stone. J'aime sa petite gueule d'amour, je le suis dans sa galère. Et je suivrai toujours, lui je peux pas m'en défaire. J'ai caressé son jean, j'ai dormi sur sa guitare. Chaque fois que je l'imagine, ça fait bizarre, bizarre. Comme Jimmy dit, what I say.
Et après cet intermède musical, place au deuxième sujet de notre magazine, l'exemple de la Voix du Nord d'Arras avec une interview de Fabien Bidot, journaliste au sein de cette rédaction par nos confrères de Radio PFM.
Radio Plus, interview.
On est en communication avec Fabien Bidot, journaliste de l'équipe de la Voix du Nord à Arras. Salut à toi.
Salut.
Comment tu vas d'abord?
Bah très bien. Écoute, moi je considère qu'on a plutôt de la chance de pouvoir continuer à travailler et à sortir un petit peu, même si on sort beaucoup moins que d'habitude, mais c'est plutôt une chance, ouais, je trouve, de pas être coincé chez soi en permanence en ce moment.
Alors comment ça se passe pour la Voix du Nord à Arras? Parce qu'en temps normal, il y a quoi, une douzaine de personnes qui travaillent aujourd'hui? Comment ça s'organise?
On est une dizaine en fait plutôt sur la rédaction d'Arras Saint-Paul. On est toujours ce même nombre aujourd'hui. Simplement, on est tous en télétravail depuis 3 semaines. En fait, depuis le début du confinement. Hein, sauf exception, on vient pas à la rédac, ou alors quand on vient, on est un ou deux seulement. Et voilà, on continue à travailler, à produire un journal. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les éditions ont été fusionnées en fait depuis 3 semaines aussi. Donc voilà, les éditions qui étaient auparavant, il y avait une édition Arras Saint-Paul. Désormais, il y a une édition Artois avec Béthune et Lens aussi. Voilà, donc on arrive à sortir un journal tous les jours, ce qui n'était pas donné, hein, mais c'est le cas, c'est bien.
Alors la base du journalisme local tel qu'il est pratiqué par la Voix du Nord, c'est la rencontre, hein, aller voir les gens et discuter avec eux. Avec la situation sanitaire, les choses sont plus compliquées. Comment ça se passe?
C'est vrai qu'on privilégie vraiment le télétravail et le téléphone aussi pour les interviews. Je dirais qu'on fait pas moins d'interviews, même au contraire. Là, les premières semaines, on a tous beaucoup travaillé, mais beaucoup au téléphone. Alors, on a dû réapprendre à finalement à travailler à distance. Effectivement, la base, comme tu dis, du journalisme de local, c'est plutôt d'aller voir les gens et de gagner leur confiance pour, en gros, les faire parler. Hein, c'est un peu ça, et les faire témoigner. Alors là, c'est plus vraiment possible, sauf exception. Là, par exemple, je rentre du centre hospitalier où il se passe des choses éminemment importante là-bas, donc là ça nécessite, ça vaut le coup d'y aller. Sinon on fait beaucoup au téléphone, mais comme on a une équipe avec un réseau quand même assez dense depuis plusieurs années, pour l'instant on n'a pas vraiment de soucis parce que le réseau et le carnet d'adresses et donc tous les numéros de téléphone qu'on a pallient la présence qui n'est plus là en physique, on va dire quoi.
Oui, tu parlais de nombreuses interviews. Hein. Ça peut paraître paradoxal parce que bon, il y a moins d'activités dans la ville. Il y a très peu d'activités culturelles ou sociales. Mais parallèlement, donc il y a beaucoup d'idées de sujets. Alors comment vous avez pensé un petit peu la couverture médiatique de cette crise sanitaire, à la fois des infos pratiques, des témoignages de personnes, des gens qui mettent en œuvre de chouettes initiatives, de nouveaux problèmes aussi qui apparaissent.
Ouais, bah effectivement, alors il y a on va dire les informations ritualisées du type les annonces culturelles ou tous les événements qui avaient lieu habituellement ont été supprimés, mais tout le reste a été densifié et tout pendant là les premières semaines tout fait sujet finalement puisque entre les annulations, les réorganisations, le chômage pour certaines entreprises, les entreprises qui se mettent à fabriquer du gel ou des masques, voilà, tout a fait sujet en fait là ces derniers temps. Donc on n'a vraiment pas eu besoin de se creuser la tête, j'allais dire, pour trouver des sujets. Et puis aussi on a remarqué que beaucoup plus que ces derniers temps, beaucoup de gens nous téléphonaient spontanément à la rédaction aussi pour dire voilà, j'ai envie de relayer telle initiative qui a lieu. Alors ça pouvait être moi j'ai eu des coups de fil, je livre 1000 croissants au CHA au CH d'Arras, mon asso produit des masques, on veut le faire savoir, ou telle ou telle personne, lectrice ou lecteur de La Voix du Nord voulait remercier un tel ou dire que il était content de recevoir son journal le matin. Enfin, plein de choses en fait, voilà, se sont mises en place et nous on a suivi ça. Finalement, on suit ce qui se passe dans la société et ça, bon voilà, ça rejaillit naturellement jusqu'à nous et on s'est vraiment pas embêté là pendant le premier mois de confinement en tout cas.
Au-delà de cela, de cette couverture, est-ce qu'il y a aussi une réflexion, une analyse, enfin, et quelle est ton analyse toi de la situation de la crise sanitaire dans l'Arrajois?
Bah là je me garderais bien de porter une analyse en fait là-dessus, même si je suis particulièrement l'actualité notamment au CH d'Arras, mais écoute, c'est en fait ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les chiffres officiels qui sont remontés chaque jour par l'agence de santé, le Pas-de-Calais est plutôt préservé. On voit qu'il y a dans la région, c'est le département qui subit le moins important de décès déclarés liés au Covid. Mais c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, hein. Et c'est aussi parce que dans le Nord, le CHU de Lille, forcément, reçoit les patients les plus lourds, hein, puisqu'ils ont le plus de moyens aussi. Donc voilà. C'est après là, je rentre de l'hôpital d'Arras. Dans les unités Covid, en fait, que ce soit en réa, alors en réa ils sont à 30 personnes, je crois, hospitalisées. Donc il y a à la fois un flux entrant et un flux sortant, ça se stabilise. Et dans les unités de premier rideau où les gens sont hospitalisés avec le symptôme ou la maladie détectée, ça baisse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est le directeur parlait de plateau, hein, donc voilà, ça reste un nombre élevé d'hospitalisations qui baisse un peu en tout cas dans les unités de surveillance. Mais après c'est très difficile de tirer des leçons et un enseignement là-dessus sur l'impact sanitaire dans l'Arrajois. On parlait aussi des maisons de retraite où il y a eu plusieurs dizaines de décès hein, depuis le début. Et là, c'est un vrai sujet de bah, compliqué où la prise en charge des personnes qui sont âgées, parfois atteintes de troubles psychiques, sont aussi des cas difficiles à prendre en charge. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est pas à moi de donner une photo sanitaire de la crise dans l'Arjois, évidemment. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'il y a voilà, toute la chaîne médicale de soignants, les soignants qui vont à domicile, les médecins dans les maisons de santé qui sont réorganisés, qui couvrent des créneaux 7 jours sur 7 avec des surveillances. Enfin, vraiment toute la grande machinerie médicale de la Rajoie s'est mis en ordre de marche pour gérer au mieux la crise. Et voilà, on va, sans faire de clichés, c'est vrai que c'est une région où la solidarité est hyper présente et on le voit encore une fois aujourd'hui, quoi. On le remarque avec toutes les initiatives hors milieu médical également.
On est toujours en communication avec Fabien Bidot, journaliste à La Voix du Nord, Arras. Alors tout à l'heure tu parlais de la distribution des journaux. L'info c'est quelque chose qui est très important dans ce genre de situation. Et en même temps la distribution des journaux peut pose problème. Et on voit aussi l'importance qu'a pris la diffusion numérique de la transmission des infos à l'occasion de cette crise sanitaire.
Ouais. Bah nous, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'abonnements numériques, on va dire là depuis ces dernières semaines. Hein. Ça a été multiplié par, je ne sais plus, 3 ou 4 par rapport au rythme de croisière habituel, parce que effectivement, bon, les gens sont confinés chez eux. Il y a moins de, enfin, même si je crois que 80% des lieux de vente hein, de presse sont encore ouverts, c'est quand même, il y en a quand même 15 à 20% qui sont fermés. Donc c'est un peu plus compliqué de toucher le journal, on va dire. Puis bon, voilà, il faut avoir aussi une bonne raison de sortir de chez soi. Donc le numérique monte en flèche. Le papier aussi. Enfin voilà, on a plus d'abonnements que d'habitude. Après la distribution, la Voix du Nord a la chance d'avoir un réseau de. Alors la Poste a été un sujet là pendant quelques temps. Maintenant, je crois que ça revient un peu mieux. Mais la Voix du Nord à 80%, je crois, est distribuée en portage. Donc c'est des gens qui réceptionnent sur des zones, des secteurs, en fait, les journaux à 3 ou 4 heures du matin et vont les distribuer dans les boîtes aux lettres de leur secteur. Et ces gens hein, qui sont aussi très valeureux et il faut souligner le travail, on continue à le faire depuis le début et ça permet aux lecteurs abonnés d'être en grande majorité de pouvoir avoir leur journal vers 7 heures le matin au maximum dans leur boîte aux lettres. Donc voilà, on a plutôt, de ce point de vue-là, en tout cas, l'impact a été assez peu soutenu à La Voix du Nord pour la distribution du journal, en tout cas. Et donc, on s'est organisé en édition fusionnée, comme je te disais tout à l'heure, pour pouvoir absorber, puisque la fabrication quand même du journal est perturbée. Les équipes de rotativistes, donc à côté de Lille, qui fabriquent le journal, ont pris des mesures pour pas se croiser, pour qu'il y ait le moins de risques possible de transmission du virus. Donc, on a limité à 2 rotatives, je crois, l'impression du journal, et ce qui fait qu'on peut imprimer un peu moins de journal et un peu moins de journaux, pardon. Et ce qui fait qu'on a fusionné quelques éditions.
Il y a certains médias qui ont proposé d'autres politiques tarifaires pendant la crise. Est-ce que tu sais si à La Voix du Nord, il y a eu une réflexion sur une éventuelle gratuité des contenus? Tu es au courant de ça?
Non, la gratuité, c'est compliqué. Enfin, là, je ne vais pas parler à la place de la direction, mais c'est toujours compliqué puisque l'information, évidemment, a un coût. Hein, et il est toujours le même aujourd'hui. Je sais que, par contre, sur le numérique, on a 2 sites. Nous, on a un site payant avec beaucoup d'infos locales et un site gratuit, la VDN, où là, je pense qu'on a libéré plus d'articles gratuits que d'habitude, pour permettre en tout cas les grands sujets d'intérêt général sur la santé. Évidemment, on fait en sorte qu'ils soient lus au maximum, tous les messages de précaution, les messages sanitaires, tout ça, je crois que c'est accessible gratuitement sur le site de la VDN. Ouais.
Peut-être une dernière question pour toi, c'est sur l'après, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que donc l'après confinement, ça va changer, des choses vont changer. Est-ce que dans le domaine des médias, dans la manière de travailler, est-ce que tu penses que ça peut changer des choses pour vous à la Voix du Nord à Arras?
Bah, c'est difficile de le dire pour l'instant. C'est vrai qu'en tout cas. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la nouvelle organisation a été adoptée très rapidement. Hein, donc le télétravail, les interviews donc par téléphone ou les réunions ensemble via donc des systèmes de visioconférence, hein, comme on fait actuellement là tous les deux. Et voilà, on remarque en tout cas que le travail à distance c'est possible et qu'on peut produire une information de qualité. Avec ça, après, j'avoue, je suis pas dans les hautes sphères stratégiques de la Voix du Nord. Je sais pas ce qui va en rester. Vraiment, c'est compliqué de se projeter encore, quoi. A priori, on va revenir dès que possible sur des éditions, les éditions qui étaient celles d'avant le confinement, donc avec plus de pages locales sur Arras et le Ternois.
On était en communication via internet avec Fabien Bidot, journaliste à La Voix du Nord Arras. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
C'est la fin de ce numéro de Mardi Magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est à retrouver très vite en podcast sur le www.radioplus.fr.
Radio Plus, la radio, la radio de toutes les générations. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Somebody let you in.